Bonjour à tous. Les paroles et les actes de Jésus nous intéressent et nourrissent notre foi. Nous recevons l'assurance du salut pour l'éternité parce que Christ a accepté de souffrir, de mourir sur la croix de Golgotha et le matin de Pâques, il est ressuscité. En même temps que nous ouvrons notre cœur pour que Jésus y prenne place, nous nous engageons à devenir son disciple. Il est notre maître et les évangiles nous rapportent ses paroles et ses actes. Ce matin, je vous propose une réflexion sur un événement significatif du ministère de Jésus, un événement connu qui a contribué entre autres à ce qu'il devienne un opposant à éliminer pour l'autorité religieuse de l'époque. L'épisode est appelé la purification du temple ou les vendeurs chassés du temple. On a déjà eu une soirée au groupe d'hommes autour de ce thème-là, alors je m'excuse pour ceux qui ont déjà traité le thème, mais ça sera un rappel. Puis moi, ça m'a permis de préparer plus rapidement. Il est facile et immédiat de ne comprendre ce passage qu'au premier degré. Par exemple, Jésus est un homme comme nous, capable d'éprouver toutes sortes d'émotions et également capable d'exprimer sa colère contre des personnes qui gagnent leur vie en faisant du commerce dans l'enceinte du temple de Jérusalem. On peut comprendre également que la monnaie, l'argent, n'a pas sa place lorsque l'on organise des manifestations dans le domaine religieux. Par conséquent, nous en retirons l'enseignement suivant. Comme Jésus, il peut nous arriver de nous mettre en colère, et lorsqu'on parle d'organiser des activités autour de la vie d'Église, l'aspect financier est suspect et mal vu. Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse les marchands des bestiaux et reproche aux uns et aux autres d'avoir fait du temple une maison de trafic ou une caverne de voleurs. Même si nous savons que Jésus est venu pour parler de paix, d'amour, et qu'il a passé du temps pour guérir les malades, enseigner les foules, il a quand même menacé et bousculé physiquement les vendeurs du temple. En même temps, toutes les activités liées au commerce deviennent des activités de trafic et de voleurs, et comme le vol c'est mal, nous voilà mal à l'aise avec tous les aspects de notre vie en rapport avec le fait de gagner de l'argent. Voilà les conclusions auxquelles on arrive rapidement, si on ne prend pas le temps de lire attentivement ce que Jésus veut réellement nous enseigner. Commençons par lire les différents passages qui relatent l'événement. Dans Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » C'est juste après le jour des rameaux où Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, assis sur un âne et acclamé par la foule. Ensuite, il guérit les aveugles et les boiteux. Dans Marc 11, les versets 15 à 18, nous lisons: juste pour le contexte, Jésus vient de maudire un figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Déjà une première colère apparente. Nous lisons dans Marc 11, versets 15 à 18. Ils arrivèrent à Jérusalem, donc Jésus et ses disciples, et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant: « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » À peu près le même texte que Matthieu, sauf que la citation de Jésus concernant l'objet du temple est plus complète. « Une maison de prière pour toutes les nations. » Et après, le soir venu, Jésus sort de la ville. En Luc 19, versets 45 et 46, Comme dans le texte de Matthieu, après l'entrée triomphale de Jésus le jour des rameaux, mais il est dit également que Jésus pleure sur Jérusalem, parce qu'elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Nous lisons donc dans Luc 19, versets 45 et 46. Jésus donc entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et Jésus continue d'enseigner dans le temple. Le peuple l'écoutait avec admiration. Et les autorités civiles et religieuses ne savaient comment s'y prendre pour le faire périr. Quatrième passage dans Jean 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ensuite, les disciples se souviennent d'un passage dans le psaume de David, psaume 69, verset 10, qui dit « Le zèle de ta maison me dévore », qui souligne que Jésus ne saurait tolérer aucune marque d'irrespect envers Dieu, en particulier lorsqu'il s'agit du temple de Jérusalem. Et Jésus entre en discussion avec les Juifs pour dire « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les interlocuteurs répondent qu'il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Pour illustrer et comprendre la suite, je vous invite à regarder une image reconstituée et ensuite le plan proposé par les archéologues du temple de Jérusalem au temps de Jésus. Un premier temple a été construit par Salomon, le fils de David. En fait, c'est David qui avait en projet d'élever le temple pour donner un lieu de recueillement au peuple. Ce temple devait héberger en particulier l'Arche de l'Alliance qui contenait les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements reçus par Moïse. Mais Dieu n'a pas permis à David de réaliser le projet. On peut déjà voir là que Dieu lui-même n'est pas à l'origine de l'idée et que son existence soit liée à un bâtiment. Mais, paraît-il, les hommes et les femmes ont besoin de ce genre de lieu pour que leur spiritualité puisse s'exprimer. Toutes les religions désignent des lieux, créent des bâtiments pour leurs pratiques religieuses. Le temple de Salomon a été détruit par Nabuchodonosor lorsque Israël a été envahi et battu par les Babyloniens. Le deuxième temple a été reconstruit du temps d'Ézéchias et de Josias. Et à l'époque de Jésus, c'est Hérode qui régnait sur la Judée, malgré l'occupation romaine, qui avait entrepris des grands travaux d'extension et de réaménagement de ce lieu de pèlerinage du peuple juif. Dans la tradition religieuse juive, il y avait, paraît-il, 150 fêtes dans l'année, avec trois pèlerinages à Jérusalem. Pour Pâques, la fête de Pessah, pour Pentecôte, Shavuot, et pour la fête des tentes ou la fête des tabernacles qu'on appelle Sukkot. Pour ces trois événements annuels, plus de 250 000 personnes autochtones et étrangers pouvaient se retrouver à la même date et au même endroit. Le mont du temple où est construit l'édifice est une colline. C'est donc une architecture tout à fait remarquable qui a permis d'élargir l'endroit. Vous vous rendez compte, c'est sur un dôme, et donc ici c'est beaucoup plus haut que là-bas, qu'au milieu. Quoi. Donc il a fallu faire des étages et des étages de colonnades et de planchers pour pouvoir élever le parvis pour faire quelque chose d'à peu près plat. Environ 300 mètres de large et 450 mètres de long, au sommet d'une colline, 1,5 km de périphérie, et ça entoure à peu près 15 hectares. Les travaux n'étaient pas finis du temps de Jésus, et le temple a été détruit par les Romains en l'an 70. Tout cela pour dire que l'activité religieuse était concentrée autour du fonctionnement de ce lieu de culte, de pèlerinage et de pratiques religieuses. Les activités religieuses, c'était les pèlerinages, justement, la présentation d'enfants. On sait que Jésus a été présenté à l'âge de 12 ans dans le temple. Les sacrifices pour le pardon des péchés, le recueillement, les prières, les rencontres. Toute l'activité religieuse était en rapport et sous le contrôle des chefs du temple. Le temple était devenu un lieu de pouvoir important et l'endroit où l'organisation religieuse de l'époque enfermait Dieu. Dans la construction même, il n'y a que des barrières et des séparations qui empêchent tout le monde de s'approcher du lieu saint, où l'organisation du culte a enfermé Dieu. La seule personne qui peut franchir la dernière barrière est le souverain sacrificateur, et une seule fois dans l'année. La première partie est accessible à tous, c'est ce qu'on appelle la cour des gentils, numéro 8. Ensuite, ceux qui n'étaient pas de culture juive ou du peuple juif pouvaient franchir cette première barrière, et c'était la cour des femmes. Donc là, hommes et femmes étaient réunis. Ensuite, il y avait une barrière qu'on appelait la cour d'Israël, où seuls les hommes pouvaient aller. Et après, il y avait la partie réservée aux serviteurs du temple, les lévites et les sacrificateurs. Et dans le détail, après, seul, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, les sacrifices se faisaient dans cet endroit-là. Et donc, le lieu saint et le lieu très saint, là, c'était réservé aux fonctionnaires du temple. Et le lieu très saint était accessible une fois dans l'année. Par le souverain sacrificateur. Vous savez tous que au moment de la mort de Jésus, au moment où il a expiré, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, et ce qui a ouvert l'espace du lieu saint à la vue de tout le monde. Le judaïsme autour du temple du temps de Jésus représentait une théologie qui se résumait à installer Dieu dans une maison. Une théologie de la séparation qui soumet le peuple, qui soumet les personnes au joug de la tradition. Le temple, avec son organisation pratique, était devenu un lieu de pouvoir et d'oppression, détourné de son intention première voulue par Dieu, où le temple devait être une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples, selon Ésaïe 56, verset 7. Un endroit pour se recueillir dans la présence de Dieu. Alors, lorsque Jésus a chassé les vendeurs du temple et renversé les tables des changeurs, il n'a pas seulement montré qu'il pouvait se mettre en colère et dire que le commerce, c'est pas bien. Son geste est en fait un geste prophétique. C'est un acte fondateur de son ministère. Pour Matthieu, Marc et Luc, l'événement se déroule au commencement de la semaine sainte, juste après les rameaux. Pour Jésus, c'est au commencement de son ministère, pour Jean, c'est au commencement de son ministère, juste après l'eau changée en vin aux noces de Cana. Le geste de Jésus est un message qui dépasse la signification première. Ce geste est une parabole. Jésus remet en question une relation à Dieu qui passe par un rite tarifé. Jésus n'admet pas que le culte soit transformé en un trafic religieux et financier sous contrôle d'un pouvoir centralisé. Le signe posé est spectaculaire. Le fouet qui claque, les bovins et les moutons qui se mettent en mouvement dans la foule, les tables renversées. C'est un geste prophétique dans la tradition des annonces prophétiques. Un peu comme Élie qui jette son manteau sur Élisée pour le désigner comme son successeur. C'est comme Jérémie qui casse une cruche et qui se promène à travers la ville avec un joug pour annoncer l'arrivée imminente de l'Église. C'est comme Osée qui épouse une prostituée pour signifier l'adultère du peuple de Dieu, du peuple de Dieu vis-à-vis de Dieu. Jésus a posé d'autres signes dans cette même tradition. Le lavement des pieds, pour symboliser sa compréhension du pouvoir, et le partage du pain et du vin pour faire de sa mort un don. Jésus veut faire comprendre que ce n'est pas l'accomplissement d'un rite, sacrifice tarifié pour le pardon des péchés, mais une conversion du cœur, un changement d'attitude pour rencontrer Dieu, pour entrer dans son projet. Cette conversion n'est pas monnayable, elle n'est pas taxable. Elle correspond à un engagement de notre personne. Jésus, qui a souvent séjourné à l'écart de la foule et même dans les déserts, nous montre bien le contraste, l'opposition entre le temple de Jérusalem, concentration d'activités religieuses 24 heures sur 24, peu propice à la méditation, et le désert, où chacun peut entrer en méditation pour vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Jésus oppose le prêtre, fonctionnaire du temple au service du pouvoir religieux, et le prophète, qui parle de la part de Dieu pour appeler à la repentance. Jésus oppose le sacrifice tarifé et la repentance, le sacrifice tarifé et la repentance, qui nous permet de reconnaître qui nous sommes réellement, pour nous amener à un changement de notre cœur, pour entrer dans le plan de Dieu pour les humains et entrer dans sa présence. Contrairement donc aux apparences, il n'y a aucune violence dans la scène décrite dans les évangiles. Le fouet n'a pas servi à fouetter les personnes, seulement à mettre en mouvement les animaux. Les cages des pigeons n'ont pas été ouvertes, ce qui aurait fait échapper les pigeons et appauvri les vendeurs. Les vendeurs, l'argent des changeurs n'a pas été raflé, simplement renversé, et la police du temple n'est pas intervenue à titre préventif avec brutalité, parce que quelqu'un perturbe l'endroit. La légion romaine, située à proximité, n'est pas intervenue. Sur un des plans, on voyait que juste à proximité du temple, il y avait la tour Antonia, où il y avait une légion romaine qui était prête à intervenir. Il fallait quand même contrôler les mouvements de foule, déjà à l'époque. Donc, Jésus était seul. Son intention n'était pas de commettre un attentat sur le parvis du temple. C'est pour nous un exemple d'une façon de faire pour dénoncer les abus et les concentrations des différents pouvoirs mis en place par les hommes. En expulsant les vendeurs et les acheteurs du temple, Jésus s'oppose frontalement à une compréhension de la pureté qui repose sur des rites religieux. Il l'a fait à d'autres moments. Il s'est mis à table avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie en Matthieu 9, verset 10. Il relève la foi du centenier romain dont le serviteur était paralysé et dont il a permis la guérison, en Matthieu 8, verset 10. Il guérit un malade le jour du sabbat, Matthieu 12, verset 14, et remet en question les prescriptions alimentaires, en Matthieu 15, verset 11, où Jésus dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. » Jésus a vraiment bouleversé, renversé les constructions humaines qui mettaient Dieu à distance du cœur humain. Jésus est venu pour nous éclairer sur la bonté et la bienveillance de Dieu, qui se veut être un père pour tous les humains, et pas seulement pour une élite triée sur le volet par la volonté des hommes. Pour conclure, pour une meilleure compréhension de la signification de certains événements, n'hésitons pas à prendre du recul et de la hauteur, pour ne pas nous arrêter à la première impression. Dans une époque de convictions tièdes et de fausses tolérances mielleuses, il est bon d'entendre que Jésus a été capable de colère et de le manifester par un geste spectaculaire. Jésus est vraiment venu sur terre pour libérer les hommes et les femmes de toutes sortes d'asservissements. Dieu n'est pas indifférent devant les asservissements politiques, sociaux et religieux. Il est le Dieu de la libération. Jésus a dénoncé spectaculairement, au péril de sa vie, le système qui a transformé le culte de Dieu en un trafic religieux et financier. Pris individuellement, les fournisseurs d'animaux pour les sacrifices, les changeurs de monnaie qui facilitaient et permettaient à tous d'apporter leur offrande, les prêtres dont le métier était de servir le bon fonctionnement du temple, étaient tous des personnes qui avaient simplement un métier qui leur permettait de gagner leur vie pour subvenir aux besoins de leur famille. Jésus n'en a agressé aucun, personnellement. Mais Jésus a dénoncé l'organisation qui consiste à concentrer les pouvoirs et les richesses. Jésus a dénoncé les lignes de séparation, la ségrégation à l'intérieur même du temple, alors que Dieu tend sa main bienveillante vers toutes les personnes, toutes les nations. Jésus a remplacé le bâtiment qui servait au culte par une rencontre avec sa personne, lui le Fils de Dieu qui siège à la droite du Père éternel. Jésus a remplacé l'organisation du culte autour d'un lieu exclusif par un culte au sein d'une communauté partout dans le monde sans frontières ni barrières. Là où vous êtes rassemblés en mon nom, je suis présent. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ce matin. Amen.